France Inter. Le journal de 13h, Jérôme Cadet, bonjour.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des flammes au plus près des habitations, incendies dans l'Aude, 2000 hectares déjà brûlés près de Narbonne et un vent qui complique le travail des pompiers. Le point dans un instant. Dans les départements en vigilance sécheresse, les contrôles se multiplient. Nous suivrons l'un d'entre eux. Nous verrons que les députés français s'intéressent à la fraude aux dividendes, enjeu des milliards d'euros de recettes fiscales. Donald Trump et les flatteurs, dernier en date, Benjamin Netanyahu qui le propose pour le Nobel de la paix. Des Miro, Matisse ou encore Goya exposé à Landerneau. Et puis le look de l'été que l'on n'attendait pas, c'est le retour du bouc, sans oublier la météo, davantage de soleil, nous dira Élodie Calac.
Inter.
C'est le feu le plus important de ce début d'été. Dans l'Aude, près de Narbonne, plusieurs quartiers et villages restent confinés. Et même si l'autoroute A9, coupée hier après-midi, a rouvert progressivement ce matin, la circulation y reste très difficile. 1000 pompiers se relaient pour stopper l'avancée des flammes. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Des pompiers qui ne sont pas aidés par le vent.
Oui, avec ce vent qui ne faiblit pas, bien au contraire, depuis hier soir et qui s'est levé à nouveau au petit matin. Un feu qui n'est donc pas fixé et reste actif avec ces conditions météo très difficiles. Des mesures de confinement, vous l'avez dit, sont maintenues autour de Narbonne pour éviter de se mettre en danger sur la route et pour laisser également les pompiers travailler. Des villages évacués cette nuit tant le vent portait les flammes. Au plus près des maisons, c'est le cas notamment de village de Bages où Sylvie a été évacuée.
C'était des colonnes de flammes. Et là, on se dit, c'est pas possible, on pourra jamais l'arrêter. L'enfer est là, dans notre village, hein, le feu partout. Tout, il y avait plein de flammiches qui tombaient partout, dont les pompiers, les gendarmes, ils nous ont dit partez. J'ai surtout ma belle-mère et son compagnon handicapé, donc on est parti et ça s'arrêtait pas, ça tournoyait, ça s'arrêtait pas parce que même à minuit, un vent des rafales. Et là, j'ai dit jamais les pompiers y arriveront, les pauvres. Une vitesse fulgurante, le temps de se retourner, de dire waouh, on va brûler. Ils ont fait un mur pour empêcher le feu d'atteindre nos maisons. Ils ont été exceptionnel.
Et le travail des pompiers continue donc car ce vent reste très important. Les températures également très élevées à 7h. Le feu dans l'Aude n'est toujours pas maîtrisé.
Merci Laurent Kramer. Le feu est toujours actif, dit la préfecture de l'Aude dans son point de situation. Départ de feu aussi dans les Bouches-du-Rhône, tout près de Marseille, au Pen-Mirabeau, nous signale à l'instant notre correspondante à Marseille, Mathilde Vincenot, où là encore le vent, le Mistral en l'occurrence, souffle violemment. En Espagne aussi, ça brûle dans la région de Tarragone, 2300 hectares de forêt partis en fumée, là aussi avec des vents forts jusqu'à 90 km/h. En France, 48 départements font l'objet de mesures de restriction d'eau en raison de la sécheresse. Et c'est le cas par exemple d'une partie du département de la Sarthe. Et ces interdictions d'arroser sont contrôlées en ce moment par les agents de l'Office français de la biodiversité, suivi pour nous par Yann Lastenette.
Direction le terrain de foot de Parigné-l'Évêque où depuis jeudi dernier, l'arrosage de la pelouse est strictement interdit.
Quand on regarde quelques mètres à l'extérieur du stade, on est sur une couleur jaune et là on est sur du vert foncé. Il y a de fortes présomptions qu'il y ait eu un arrosage de ce stade récemment.
Pour en avoir le cœur net, Thibaut Larduina, chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, et son collègue Yannick Guy se rendent à la mairie. C'est Olivier, un des techniciens, qui leur répond.
On a un problème sur certains arroseurs sur les extérieurs et pour ça qu'il y a des endroits où c'est plus vert que d'autres. Donc il n'y a plus d'arrosage depuis le 2 juillet.
La mairie de Parigné-l'Évêque n'est donc pas en infraction. Elle fait même des efforts pour contrôler et réduire sa consommation d'eau, assure la maire Nathalie Morgan.
On change aussi la végétation, on change les pratiques et on explique aussi à la population, puisque la population nous dit aussi qu'on fleurit moins, c'est plus moche, que les pelouses en fait à côté de la mairie, là c'est complètement brûlé, mais on doit être un exemple.
Collectivités, particuliers, entreprises, agriculteurs, en général les contrôles de l'OFB se passent bien, mais les agents sont quand même armés, car d'autres missions les amènent parfois à croiser la route de personnes moins coopératives, selon Thibault.
Des fois, on tombe sur des chasseurs braconniers, donc il peut arriver qu'ils utilisent leur arme contre nous, donc il faut qu'on puisse se défendre.
Heureusement, Thibault et Yannick n'ont jamais eu à faire usage de leur arme.
Reportage ici même. Les armes, justement, celle des polices municipales, sont déjà au cœur des débats à gauche avant les élections du printemps prochain. La chef de file des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, s'est dite favorable au désarmement des polices municipales et à leur intégration dans les effectifs de la police nationale. Tollé à gauche, les socialistes et les communistes sont contre. Mais vous allez voir que sur le terrain, les désaccords sont beaucoup moins nets. Exemple à Limoges, ville dirigée par la droite, la police y est armée. Pierre Frasiac.
Les socialistes veulent conserver ce port d'armes. Thierry Miguel, leur chef de file aux prochaines municipales et ancien commissaire de la police judiciaire.
Moi, maire de Limoges, en fait, je pense que l'essentiel sera de faire en sorte de protéger l'ensemble des habitants de Limoges contre l'insécurité.
Face à cette violence, le pistolet est un outil.
Eh bien, ils ont besoin de se protéger contre des éventuelles attaques, d'une part, et puis d'autre part aussi, ça montre une certaine stature policière. Alors bien sûr, moi je suis pour le développement d'une police municipale de proximité, c'est-à-dire créer du lien aussi avec la population, exercer aussi des moyens de prévention.
Pour Damien Maudet, député LFI et en charge de la candidature insoumise à Limoges, la priorité, c'est plus de moyens humains.
Il y a un objectif à terme qui est de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une police nationale qui agisse sur la sécurité, etc. Et que la police municipale, en ayant cette mission, mais surtout, soit davantage orientée vers la prévention, la tranquillité publique.
La question de la sécurité sera au menu des négociations à gauche.
Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur le fait qu'il y ait plus de moyens humains dans la police municipale et que ce soit l'humain avant le reste et aussi qu'on ait des moyens dédiés à la prévention, notamment parce que sinon, on ne va pas s'en sortir si on a uniquement de la répression.
L'élection municipale est prévue en mars 2026.
Explication ici Limousin. À l'Assemblée nationale, la gauche sera unie ce soir pour s'opposer à la proposition de loi Duplon, mais le texte devrait être définitivement adopté ces derniers jours. 4 réserves d'eau agricole ont été vandalisées en Vendée, en Charente et en Charente-Maritime, action revendiquée par un collectif baptisé Duplon pour débâchage unis pour l'obstruction aux méga-bassines. L'échéance se rapproche. Mardi prochain, François Bayrou fera ses propositions pour économiser 40 milliards d'euros dans le budget de l'État et ainsi limiter la hausse de la dette. 2 contributions aujourd'hui à ce débat. L'une concerne les dépenses, l'autre les recettes. On va voir ça avec Grégoire Le Callot et Claire Chaudière. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Commençons
par vous, Grégoire. La Cour des comptes a étudié l'une des plus grosses dépenses de l'assurance maladie. 5% du total, c'est la prise en charge des malades du diabète. Et ça coûte de plus en plus cher.
Oui, effectivement, parce que le diabète, bien, c'est, vous le disiez, la plus importante des maladies chroniques en France, la plus grosse affection de longue durée. Et chaque année, souligne la Cour des comptes, l'assurance maladie débourse 10 milliards d'euros pour la prendre en charge. C'est plus 20% entre 2015 et 2022. La Cour s'est intéressée en fait au diabète de type 2, hein, celui qui est dû à des facteurs de risque. Le premier, c'est le vieillissement. Au-dessus de 45 ans, le risque augmente. Et comme la population française vieillit, ça se retrouve dans les statistiques et dans les comptes publics. L'autre grand facteur, c'est le poids, l'obésité. La Cour observe une aggravation et elle y avait consacré un rapport en 2019.
Et la Cour fait des propositions pour limiter la facture.
Oui, d'abord, elle essaye d'enrayer l'apparition de la maladie. Elle pointe du doigt l'alimentation industrielle. Alors, elle souhaite élargir l'interdiction de la publicité pour les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Et deux, elle voudrait étendre le principe de la taxe soda à tous ces produits pour inciter les industriels à modifier leurs recettes. Pour autant, la Cour ne ne recommande pas de Nutri-Score obligatoire à cause d'un texte européen qui l'en empêche, texte conçu sous le poids de ces lobbies industriels en question. Plus surprenant, elle souhaite que les activités de sport adaptées et le recours à des programmes d'éducation et de nutrition soient remboursés aux malades. Un investissement, explique le rapport, qui générera des économies en enrayant l'aggravation de la maladie.
Et puis côté recettes, les parlementaires planchent aujourd'hui sur une pratique qui prive chaque année l'État de plusieurs milliards d'euros, c'est la fraude Kumkum, qui concerne le paiement de l'impôt sur les dividendes. Claire Chaudière, on vous retrouve, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, d'une sorte de tour de passe-passe bancaire, un mécanisme de contournement par des actionnaires étrangers de grandes entreprises françaises de l'impôt sur les dividendes. Les dividendes, ce sont les revenus qui leur sont reversés en tant qu'actionnaires, ils sont taxés, il y a même une retenue à la source, mais grâce à un transfert de fonds des titres, des actions en question vers un autre compte juste avant le versement de ces dividendes, vous me suivez toujours, ouais. Jérôme, transfert permis via les banques, eh bien, certains actionnaires échappent à cette taxation. Le tiers, le détenteur de l'autre compte, se rémunère au passage, c'est gagnant-gagnant, et frauduleux, confirme Bercy. Cum cum vient du latin cum dividende avec dividende. Un stratagème qui coûterait ou aurait coûté 33 milliards d'euros sur 20 ans à la France, selon les calculs de l'université de Mannheim en Allemagne, entre 1,5 et 2 milliards par an, à minima en tout cas, selon le sénateur LR, rapporteur du budget au Sénat, Jean-François Husson.
Et aujourd'hui, la Fédération française des banques et le ministère des Finances doivent rendre des comptes.
Et oui, devant la commission des finances de l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que les parlementaires ont découvert il y a quelques jours qu'une mesure votée récemment, mesure qui vise à accentuer la lutte contre cette fraude, n'était finalement pas appliquée aussi sévèrement que prévu. Après son collègue du Sénat, le président de la commission des finances de l'Assemblée, le LFI Éric Coquerel, veut en savoir plus.
C'est évidemment quelque chose qui a coûté très cher. Donc heureusement, il y a une réaction. Mais là, l'incompréhension, c'est de comprendre pourquoi à Bercy, finalement, on a pris la décision, d'alléger, d'affaiblir la disposition qui avait été votée par le Sénat en février dernier.
Alors, du côté de Bercy, on explique que le texte voté n'était pas suffisamment solide juridiquement. On rejette toute influence du lobby bancaire sur cette décision. Début des auditions en milieu d'après-midi.
Merci à tous les deux, Claire Chaudière et Grégoire Lecalot. Une marche blanche ce matin à Moret dans le Jura. Elle a réuni plusieurs centaines de personnes, selon nos confrères d'ici Besançon, en mémoire de Maria, cette mère de famille abattue en pleine rue devant son domicile par son ex-compagnon la semaine dernière. Et puis à Metz, la nuit dernière, plusieurs assaillants ont ouvert le feu sur un couple qui regagnait son véhicule. La femme, âgée de 30 ans, est morte. Son conjoint a été légèrement blessé.
France Inter, le journal de 13h. Jérôme Cadet.
De Theodore Roosevelt 1906 à Barack Obama 2009, quatre présidents américains se sont déjà vus décerner le Nobel de la paix. Y en aura-t-il un cinquième, en l'occurrence Donald Trump ? Hier soir, reçu à la Maison-Blanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit avoir présenté sa nomination.
À l'heure où nous parlons, il rétablit la paix dans un pays après l'autre, dans une région après l'autre. Alors je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, la lettre que j'ai envoyée au comité du prix Nobel. Elle vous propose pour le prix Nobel de la paix que vous méritez amplement et que vous devriez obtenir.
Alors il y a quelques semaines, c'est le Pakistan, après le cessez-le-feu avec l'Inde, négocié par Trump, qui avait fait la même proposition. Décryptage de Laurie Kenton, maître de conférences et spécialiste des États-Unis à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Comme on est dans un système de cours, un peu comme à Versailles, Mar-a-Lago devient Versailles, tout le monde autour de lui, que ce soit ses conseillers, les élus américains, mais aussi un certain nombre de partenaires internationaux, se bousculent pour le flatter. Et on sait que c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur, non pas forcément en soi, mais peut-être aussi pour égaler Obama et peut-être même Jimmy Carter. Et donc, ça fait partie des choses dont il parle. Est-ce que c'est véritablement sérieux ? Est-ce qu'il a la moindre chance de l'avoir ? Je ne pense pas. Enfin, ça fait partie des choses qui agacent également les démocrates parce que c'est un petit peu absurde. Et donc, il s'en donne à cœur joie et il n'a pas forcément tort.
Laurie Kenton, téléphone de Noah Perret. Emmanuel Macron est arrivé au Royaume-Uni ce matin. Visite d'État de 3 jours. La première pour un président français depuis Nicolas Sarkozy en 2008. Le président de la République et son épouse accueillis par le prince héritier William et son épouse Kate. Il prononcera un discours au Parlement de Westminster cet après-midi devant les membres de la Chambre des Lords et des communes qui seront pour l'occasion réunies. Ce sont des œuvres qui sont le plus souvent exposées dans de vastes musées comme le Louvre ou le Guggenheim. Et bien les voilà à Landerneau dans le Finistère. Des œuvres d'Henri Matisse, Rosa Bonheur ou encore Picasso rassemblées au fond Hélène et Édouard Leclerc. Claire. L'exposition s'appelle Animal. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Et pour ce musée breton, c'est une fierté.
Comme obtenir cette sculpture d'Edgar Degas prêtée par le musée d'Orsay, la petite danseuse de 14 ans, arrivée la semaine dernière à Landerneau. Marie-Pierre Batani est la directrice du Fonds Leclerc.
Monter une exposition à Landerneau, c'est toujours un pari. Il a fallu gagner la légitimité et bâtir la confiance avec les grandes collections. Quand on prête ses œuvres à Landerneau, pendant ce temps-là, on ne les prête pas à Paris, on ne les prête pas à New York, on ne les prête pas à Rome ou dans je ne sais quelle autre capitale ou haut lieu de l'art contemporain, de l'art moderne. Il a fallu construire ça.
Autrement dit, cartographier Landerneau sur l'échiquier des lieux d'exposition, se faire connaître au fil des années auprès des plus grands musées et jongler avec les contraintes de calendrier pour obtenir le prêt de l'œuvre au bon moment. Christian Allendette est le commissaire de l'exposition.
Ça arrive aussi après 15 ans d'activité du fonds Leclerc, qui a organisé beaucoup de rétrospectives d'artistes importants, Giacometti, Chagall, Miro. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil dans l'exposition, en fait, on retrouve tous ces grands artistes dans le parcours de l'exposition également.
Parmi les œuvres que l'on peut voir, justement, il y a cette peinture d'Henri Matisse, intérieur, bocal de poisson rouge, une palette de bleu, invitation à la méditation, ou encore ce singe artiste en pleine activité, peint par Chardin au XVIIIe siècle.
Animal jusqu'au 2 novembre, c'est à Landerneau, avant la Bretagne. Ce sera pour vendredi. Les coureurs du Tour de France arrivent en Normandie. Ce soir, quatrième étape, 174 km entre Amiens et Rouen, avec un final particulièrement accidenté, le départ de l'étape donné à 13h35. Et on en vient donc à la tendance de ce début d'été. La mode est au bouc sur les mentons. Les vidéos TikTok pour apprendre à tailler son propre bouc, on la cote, et les mots-clés bouc ont été très recherchés, notamment hier, nous apprend Google Trend, qui enregistre les données de recherche. Le bouc, nouvel attribut à la mode chez les jeunes. Lucie Oconi l'a constaté à Paris.
Il y a encore quelques mois, Samy, le barbier de Marac House Barber, dans le 17e arrondissement de Paris, ne portait pas de bouc.
Les 2-3 dernières années, j'avais une barbe, mais depuis cet hiver, je me suis fait un bouc parce que je trouve que ça fait ressortir les traits de la mâchoire. Ça me rajeunit aussi. J'aime bien le combo cheveux longs et bouc.
Aujourd'hui, celui qui l'arbore fièrement coiffe un jeune de 18 ans qui, lui aussi, porte une petite barbichette.
J'ai déjà essayé d'avoir une barbe. En fait, vu que ma barbe n'est pas complète, le bouc, ça me permet d'avoir quelque chose sans avoir une barbe.
Dans ce salon, le top du raffinement, c'est même le bouc à l'italienne. Un bouc bien spécifique avec une taille dégradée, moins tranchée. Et sur TikTok, les tutos se multiplient.
Bouc à l'italienne pour tailler ta mâchoire.
Qui dit retour du beau temps, dit retour du bouc. C'est parti, je vais faire un petit tuto. Ça va être en 3 étapes.
Des vidéos qui ont pu influencer pour Samy, alors que 80% des clients dont il s'occupe ont adopté le bouc.
On a beaucoup de personnes qui nous demandent des boucs ou des boucs à l'italienne. En tout cas, beaucoup plus qu'avant. Par exemple, l'année dernière, j'en ai fait aucun de bouc à l'italienne. C'est vraiment depuis la trend TikTok qu'on nous demande beaucoup cette prestation-là. Quoi.
Une tendance qui n'est pas nouvelle, populaire, notamment dans les années 90. Brad Pitt le portait d'ailleurs avec élégance dans le film Seven.
Son heure est arrivée. Brad Pitt.
Sorti en 1995.
Lucie Oconi, un dernier mot pour vous parler des audiences au poil de France Inter ces 3 derniers mois. Vous êtes plus d'1 700 000 à écouter le 13-14 chaque jour. C'est plus que l'an dernier et nous vous en remercions le temps.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Plus de soleil aujourd'hui, mais encore des averses sur le nord-est.
Oui, ça reste encombré sur le nord-est avec des averses et parfois un orage. Un peu de neige sur le nord des Alpes vers 2300 mètres. Autour de la Méditerranée, le soleil brille généreusement, mais le vent souffle encore jusqu'à 60 km à l'heure pour la Tramontane, 70 à 80 pour le Mistral et pour le vent d'ouest de la Côte d'Azur à la Corse. Ailleurs, les éclaircies sont belles. Le soleil s'impose nettement près de la Manche, près de l'océan, sur le sud-ouest aussi. Les températures sont toujours trop justes pour la saison. Comptez 19 à 22 degrés du nord-est aux côtes de la Manche en passant par la région parisienne. 21 à 26 en allant vers l'ouest et le sud, jusqu'à 27 à 31 autour de la Méditerranée. Demain, encore des nuages sur le nord-est, mais plus d'averses, on en parlera plus demain. Du soleil ailleurs, moins de vent en Méditerranée, 40 km à l'heure pour la Tramontane et 60 pour le Mistral, et ça ira mieux pour la journée de jeudi.
Élodie Calac, Météo France.